Évidemment, l'escalade entre l'Iran et Israël qu'on continue de suivre minute par minute ce matin après des tirs de missiles iraniens. Cette nuit, à nouveau contre le sol israélien et de nouvelles frappes israéliennes d'ampleur en Iran. Des sites nucléaires, pétroliers et gaziers ont été touchés ainsi qu'un bâtiment du ministère de la Défense. On appelle Siavosh Ghazi à Téhéran à 6h, temps universel. Je vous rappelle aussi nos deux invités à suivre dans RFI Matin. Le chercheur Sébastien Boussois dans une demi-heure et à 7h12, temps universel, 9h12, heure de Paris, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad. L'escalade entre l'Iran et Israël, dont on parle d'ici là, dans un instant avec la revue de presse internationale et dans notre live, à tout moment sur notre site RFI.fr. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Salih Diouf.
Bonjour Julien.
On commence avec du football. La Coupe du Monde des clubs a débuté aux États-Unis avec un match sans aucun but inscrit.
Ils se sont séparés il y a quelques heures sur un score nul et vierge de 0-0. Ils, ce sont les Américains de l'Inter Miami et les Égyptiens d'Al Ahly. La rencontre se disputait au Hard Rock Stadium à Miami, l'antre des coéquipiers de Lionel Messi. C'était un match que l'on peut qualifier d'équilibré puisque chaque équipe a eu sa mi-temps. Notez tout de même que la rencontre aurait pu basculer en faveur d'Al Ahly. Mahmoud Trezeguet, l'international égyptien, a manqué un pénalty à la fin de la première période. Son coéquipier en sélection, le gardien de but El Shenawy, s'est aussi fait remarquer en deuxième période en sortant des arrêts spectaculaires, notamment une frappe magnifique de la Pulga Léo Messi. Prochain match pour les Égyptiens, jeudi, face au Brésilien de Palmeiras.
Al Ahly n'est pas le seul club africain engagé dans la compétition. Quand est-ce que le prochain jour 1
Eh bien, ce sera mardi. L'Espérance de Tunis affrontera Flamengo à Philadelphie. Coup d'envoi de la rencontre 1h temps universel, une équipe à suivre menée par l'international algérien le feu follet Youssef Belaïli.
Du foot encore, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo.
Les performances d'un jeune joueur dans le championnat congolais ne passent pas inaperçues. Jean-Benoît Tukumbane est actuellement le 3e meilleur buteur du championnat de la Ligue 1 avec 10 buts. Il évolue au FC Tanganyika de Kalemie qui joue pour la première fois cette saison en première division. Malgré une saison sous le signe de l'apprentissage, le jeune attaquant fait le bonheur de son équipe et se rêve déjà avec le maillot de l'équipe nationale sur les épaules, Olga Massangou.
Il est devenu le centre d'attraction à chaque fois que son équipe joue. Pourtant, le FC Tanganyika, modeste équipe de la ville de Kalemie, peine à se faire une place pour sa première saison à l'élite face aux habituels grands noms du football congolais. Âgé de 19 ans, Jean-Benoît Tukumbane a permis à son équipe de s'imposer plusieurs fois. Quand il n'est pas buteur, comme lors de l'historique victoire 2-1 à Kamalondo contre le TP Mazembe, il est passeur décisif. Il rêve déjà de l'équipe nationale.
C'est créant une part à tout travail.
Je n'ai pas d'autre secret que le travail et la discipline aux entraînements comme en match. Je me fixe à chaque fois l'objectif de m'améliorer, de faire mieux. En termes d'ambition, j'ai toujours rêvé de porter les couleurs de l'équipe nationale de la RDC, mon pays. Jouer le CHAN, la CAN et même la Coupe du Monde.
Quoique élu 4 fois homme du match depuis le début des playoffs et 9 fois depuis le début de la saison, Tukumbane peut encore mieux faire, selon son entraîneur. Saber Ben Djabria.
C'est un joueur qui est exceptionnel, qui est en train de progresser. J'espère qu'il sera toujours motivé, vous savez, parce que la motivation est principale pour un joueur. C'est pour ça que je voulais que le championnat continue. Même à l'entraînement, c'est un joueur qui se donne à fond, vous le voyez même dans les matchs.
Avec 10 buts marqués, il est le meilleur buteur du FC Tanganyika et veut finir au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
Ce dimanche, Tanganyika joue le FC Les Aigles au Stade des Martyrs pour le compte de la phase retour des playoffs.
Et on finit ce journal des sports avec du basket.
La Basketball Africa League tient un 5e champion différent, Al Ahly Tripoli. À Pretoria, le club libyen a brillamment remporté la finale 88-67 face au Petro de Luanda. La récompense d'une formation qui aura brillé constamment depuis la phase de qualification en octobre dernier grâce à une cohésion d'équipe. Une tendance qui s'est confirmée face aux Angolais tenant du titre, d'autant que Tripoli s'est aussi appuyé sur une défense solide. Au rayon des titres individuels, l'international sénégalais Jean-Jacques Boissy a tiré son épingle du jeu en étant sacré MVP de la compétition. Il analyse cette finale maîtrisée et dédie symboliquement son trophée à la jeunesse africaine.
Je pense qu'on était déjà prêt, qu'on a pu gérer le scouting avec les coachs, avec le staff. On s'est préparé pour affronter cette équipe parce que c'est une équipe championne. On a eu une longue séance qu'on a jamais eu de scouting. On a pris du temps à les regarder jouer. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et le coach nous a fait un discours de nous concentrer sur la défense, défendre comme si c'était notre dernier match et partager la balle.
tu la dédicaces aux jeunes aussi. C'est quoi ton message que tu veux envoyer?
Je pense que le message, c'est juste simple. Je suis un Africain comme eux. Je n'ai pas eu chance d'aller au high school aux États-Unis ou n'importe où. S'ils sont toujours en Afrique, ils ne doivent pas abandonner à leurs rêves.
Jean-Jacques Boissier au micro de Valentin Hugues, Al Ahly Tripoli, qui gagne d'ailleurs la balle pour la première fois de son histoire.
Merci Saliou Diouf, à tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une aujourd'hui, Israël et l'Iran qui se rendent coup pour coup.
Des trajectoires lumineuses dans la nuit, des immeubles éventrés, des secouristes qui tentent de venir au secours des victimes. Ce sont de nouveau des images de guerre que renvoie ce matin la presse internationale. À 1900 km de distance, deux villes tremblent sous une pluie de missiles, titre le Times, qui a interrogé des Israéliens et des Iraniens. Le quotidien britannique a contacté par téléphone Sharam, un journaliste iranien qui raconte vendredi matin, alors que les explosions détruisaient sa maison, faisant trembler les murs et les fenêtres, ils n'ont pu avec sa femme que se réfugier sous la table de la salle à manger pour prier. Sharam raconte que la dernière fois qu'il a eu aussi peur, c'était en 1980, lorsque les Irakiens avaient tiré sur Téhéran. À l'époque, dit-il, nous avions des sirènes et des abris. Aujourd'hui, nous n'avons même plus ça. Côté israélien, le Times of Israël parle de destruction totale. Les Israéliens, nous dit le journal, décrivent la peur et le chaos alors que les missiles iraniens détruisent leur maison. Une photo montre une policière portant un bébé dans ses bras. Les secouristes recherchent les autres membres de la famille.
Quels sont les objectifs alors de Benjamin Netanyahou derrière l'offensive israélienne contre l'Iran? La question est posée.
Posée notamment par le Devoir. Quand Israël cible l'atome pour faire tomber les mollahs, titre le journal canadien. Certes, concède le Devoir, l'objectif affiché est de mettre à terre les capacités nucléaires du plus grand ennemi de Tel Aviv, mais celui qu'il est un peu moins est de faire tomber définitivement le régime des Mollahs pour faire entrer Téhéran dans une nouvelle ère moins belliqueuse et plus respectueuse de l'existence de l'État juif. Avis partagé par le Japan Times, pour qui les attaques d'Israël contre l'Iran laissent entrevoir un objectif plus vaste, celui d'un changement de régime. Objectif revendiqué d'ailleurs par Benjamin Netanyahou lui-même, car, souligne le quotidien japonais, le premier ministre israélien s'est adressé directement aux Iraniens en leur disant « En atteignant notre objectif, nous ouvrons également la voie pour que vous puissiez obtenir votre liberté. Le régime n'a jamais été aussi faible, c'est l'occasion pour vous de vous lever et de faire entendre votre voix », a donc déclaré Benjamin Netanyahou. La crise iranienne ne se résume pas à la crise nucléaire, titre de son côté Le Soir. Le quotidien belge a interrogé le chercheur Clément Terme et lui a demandé si les négociations avec les États-Unis étaient enterrées. Ce à quoi Clément Terme répond « Cela dépend si la République islamique survit à ce choc militaire et à la contestation interne. Le régime est en échec, il faudra voir l'évolution dans les prochaines heures, les prochains jours. »
48 heures après les premières frappes israéliennes sur l'Iran, la presse souligne également qu'Israël a préparé ses attaques depuis longtemps.
L'opération Rising Lion, lion qui se dresse, a été conçue et mise en place de longue date sans que les services secrets iraniens s'en aperçoivent, remarque la Tribune dimanche, qui parle d'un coup audacieux, parfaitement exécuté, digne des meilleurs films d'espionnage. En quelques heures, nous dit-on, l'armée israélienne a décapité une partie de la chaîne de commandement iranien, éliminé 9 scientifiques chargés du programme d'enrichissement nucléaire de Téhéran et pour finir, ébranler cette république islamique qui terrorise le Moyen-Orient et le reste du monde depuis presque un demi-siècle. Le Wall Street Journal, de son côté, nous raconte comment le Mossad israélien a fait passer en contrebande des pièces de drones pour attaquer l'Iran de l'intérieur. Israël, nous dit le quotidien américain, a passé des mois pour faire entrer en contrebande des pièces pour des centaines de drones quadricoptères avec 4 hélices équipés d'explosifs dans des valises, des camions et des conteneurs, ainsi que des munitions qui pouvaient être tirées depuis des plateformes sans pilote. Information obtenue de sources bien informées, précise le Wall Street Journal. Ces mêmes sources selon lesquelles de petites équipes armées de ce matériel ont été déployées près des positions de la défense aérienne et des sites de lancement de missiles iraniens.
Enfin, côté iranien, Catherine, quelles sont les réactions?
L'agence de presse iranienne IRNA affirme que l'Iran a saisi un destroyer espion britannique dans la mer d'Oman qui est était entré la nuit dernière dans le nord de l'océan Indien dans le but de guider les missiles du régime sioniste vers l'intérieur du territoire. Il a été obligé de changer de trajectoire, précise Irna, qui annonce aussi que le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue français auquel il a dit ceci. L'attaque contre les installations nucléaires d'un pays pacifique est absolument interdite par le droit international. Tout le monde doit condamner le régime sioniste pour cette attaque et lui demander des comptes. Fin de citation.
Catherine Potet, merci beaucoup.
RFI à Accra, 89.5 FM.
Comment former la prochaine génération africaine de main-d'œuvre hautement qualifiée, améliorer encore les compétences des nouveaux talents du continent, notamment dans les domaines techniques et scientifiques? C'est l'objectif que se sont donnés dans l'enseignement supérieur les centres d'excellence africains, les CEA, un programme qui célèbre ses 10 ans d'existence, et c'est l'Afrique en marche de ce dimanche avec Frédéric Gara.
C'est au Ghana, en avril dernier, que les représentants des 20 pays associés à ce projet de centre d'excellence ont célébré le 10e anniversaire de ces CEA, cofinancés par la Banque mondiale et l'AFD. À cette occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur du Malawi a résumé la philosophie du projet, se souvient Wally Wan.
Elle a dit que ce que ce programme lui a apporté, c'était de l'afro-optimisme, c'est-à-dire voir que l'Afrique est capable de le faire et de produire ses compétences de très très haut niveau pour son propre développement économique. Et je crois que ça, c'est important.
Wally Wan est justement directeur sectoriel éducation pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale, une banque qui a investi 657 millions de dollars dans 80 centres d'excellence formant à l'agriculture, la médecine, l'énergie ou encore l'environnement.
Mais il y a aussi le lien entre les centres d'excellence et l'industrie. Ils développent des partenariats. Ils s'assurent que lorsque ceci est fait, les gens vont rester dans le pays. Par exemple, c'est des Sénégalais qui vont aller au Togo, c'est des Togolais qui vont aller au Burkina, puis ils vont revenir chez eux. Et on a pratiquement 18 000 stages qui sont faits. Donc, lorsque les gens sont formés, ce lien avec l'industrie, ils ont déjà, en fait, pratiquement un emploi ou bien un stage en commençant. Ils développent des programmes qui sont des programmes qui devraient pouvoir être commercialisables. Ceci leur permet de pouvoir retirer des revenus de ce qui est fait.
Illustration de la pertinence de ces programmes, au CERSA de Lomé, les élèves et chercheurs togolais de ce centre d'excellence sur les sciences aviaires ont travaillé sur les larves de mouches et ont pu trouver des solutions efficaces et financièrement avantageuses pour la pisciculture. Docteur Kodjo Niatape Mlaga.
Ça a eu un impact du point de vue production, où même l'entrepreneur même s'est senti satisfait de l'utilisation de ces asticots-là, au point où il développe même des techniques pas possibles pour pouvoir produire majoritairement ces asticots. Et selon même lui-même, ces asticots lui auraient donc réduit le coût de production de l'aliment, et ça a aussi permis à ce qu'il puisse donc réduire aussi l'utilisation de la farine de poisson. Donc il est sorti donc de ce cercle-là.
Pierrot Akakpovi, PDG de l'Oftifarm, société togolaise spécialisée dans la production de poissons tilapia.
C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a eu accès aux mouches soldats noirs qui nous donnent des larves qui contribuent à hauteur de 20% au moins dans la composition des aliments pour nos poissons. Ceci constitue directement un atout pour nous et à coût vraiment réduit, on pourra l'exploiter pour le bien-être de nos clients et pour notre population.
Jacob Kokou-Tona est le directeur du CERSA de Lomé.
L'existence ou bien le financement de ces centres par la Banque mondiale est un tonneau d'oxygène pour booster la recherche dans nos universités, pour l'enseignement de qualité, ça il faut le dire aussi, et puis les bonnes pratiques. Et en le faisant, ça fait exprimer à certaines personnes qui ont des potentiels qui sont cachés en eux. Ça soutient également nos universités en matière de la qualité de la formation, en matière de la collaboration, de la coopération. Ça permet de réduire aussi le gap en matière d'enseignement supérieur de la recherche entre le Nord et le Sud.
Depuis 2015, dans 20 pays comme le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore le Cameroun, plus de 90 000 étudiants sont sortis de ces centres d'excellence. Plus d'un tiers d'entre eux sont titulaires d'un master ou bien d'un doctorat. Et surtout, 18 000 stages ont permis de mettre leur formation d'excellence au service d'entreprises africaines. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, ça, non, ça, ça.
Yansa noé, oya sa no sa sa, oya sa no sa sa, yansa noé, oya. bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde. Avant le prochain journal, un peu de musique avec un groupe japonais étonnant qui va puiser ses sources dans la cumbia, l'afro-funk, le jazz éthiopien, Mino Crusaders et leur titre Kaigarabuchi dans notre sélection du mois. Crusaders, un groupe japonais, le titre Kaigarabuchi dans la sélection du mois de RFI, que vous retrouvez sur musique.rfi.fr et le journal dans moins d'une minute. A tout de suite.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
L'élection a été serrée jusqu'au bout en Pologne. Finalement, le nationaliste Karol Nawrocki a été élu président début juin avec un peu plus de 50% des voix. Un nouveau président proche de Donald Trump et qui pourrait freiner les réformes et les ambitions européennes portées par le gouvernement polonais.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
Tout à l'heure, à partir de 10